Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Bah oui, quel plaisir de vous retrouver après ma petite escapade du côté de Düsseldorf. Enfin, je sais que les clés de la maison ont bien été gardées. Donc, ravi en tout cas d'être avec vous pour encore commenter une actu et foot avec l'Euro et Olympique. Donc, avec nos différents rendez-vous qu'on vous propose depuis maintenant quelques semaines. Je vais saluer Vanessa. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe. Ça bonsoir à tous. Oui, très bien.
Il était content, Stanley Jeannette.
Oui, très content.
Très bien. Parfait. Voilà. Je salue aussi mon ami Darius. Ça va, Darius ?
Écoute, ça va super, et toi ?
Ouais. Bien remis du commentaire.
Hein ? Bien remis du
commentaire. On a un petit peu souffert avec les Pays-Bas.
Hein ? Mais j'ai hâte de m'y remettre, là.
Voilà, c'est ça, bien sûr. Et puis, il est arbitre, donc il sera avec nous pendant toute cette Euro. Ce sera son regard de passionné, mais aussi d'arbitre. C'est Loane Darcy. Bonsoir, Loane, ça va ?
Bonsoir, Philippe.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. On s'était croisé à Charletti, hein, et puis on avait dit qu'on se reverrait. Alors on attend aussi Julien Girafi, qui est agent de joueur, qui est un petit peu en retard donc, dans les transports, ainsi que notre ami donc Alexandre, qui viendra tout à l'heure donc nous faire notamment le journal des sports. Alors pour patienter un peu, on va commencer par l'actualité olympique. Le 23 juin, ça te dit quoi, Vanessa ?
Samedi, journée olympique, bien sûr.
Alors, pour faire le lien, anniversaire de Zinedine Zidane et puis journée olympique.
Journée olympique, voilà. Tout à fait.
Il s'est passé beaucoup de choses sur Paris.
Oui, déjà plusieurs célébrations au cœur de la capitale, hein, puisque chaque année, le 23 juin, c'est la journée olympique et il y a des célébrations même à travers toute la France. Excusez-moi. Et puis, hier à Paris, évidemment, on était à 32 jours des Jeux. Et il y avait de nombreuses célébrations. En particulier, au jardin Chalaz-Navour, juste en bas des Champs-Élysées, à côté des spots, des futurs spots olympiques, l'inauguration de la sculpture olympique réalisée par Alison Saar, une artiste américaine originaire de Los Angeles. Et d'ailleurs, c'est là le lien entre les Jeux de Paris et les prochains Jeux de Los Angeles en 2028. Mmh. Donc cette inauguration s'est déroulée dans le jardin Charles Aznavour en présence de Thomas Barr, le président du comité international olympique, Jeanne Dautzer, la maire du 8e arrondissement, Karine Roland, l'adjointe à la culture de la mairie de Paris et en charge de la ville du quart d'heure. De nombreux discours ont ponctué donc cette inauguration. Donc évidemment, des personnes présentes, Jeanne Dautzer, Thomas Barr et Karine Roland. Et puis également, des vers poétiques ont été récités en lien avec cette sculpture olympique et ce qu'elle incarne.
Je crois que vous êtes allé à la Sorbonne directement.
Voilà, après j'étais à la Sorbonne, une magnifique soirée donc, en l'honneur du discours fondateur de Pierre de Coubertin le 23 juin 1894. Une soirée en présence de Tony Estanguet, de Thomas Barr et puis de nombreux athlètes, la princesse aussi Charlène de Monaco. Et l'actrice Michelle Yeoh, plusieurs fois oscarisée, une soirée magnifique avec un concert, avec une très belle soirée. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure.
Oui, et puis Loane, les Jeux Olympiques, ça va t'intéresser, non ? Pas trop ?
Oui, ça m'intéresse.
Pour être foot olympique ou d'autres sports ?
Je vais voir l'équitation paralympique
D'accord.
Avec ma copine.
D'accord, sur Versailles donc.
Exactement.
Ouais, c'est ça. Ouais. Darius, toi, le jeu ?
Bah, bien sûr.
Tu vas y être, tu vas être réquisitionné. Hein.
Ouais, totalement. Je vais aller au QG, au quartier jeune, dans le premier arrondissement. On va faire une fan zone, là. On va pouvoir commenter en live. Ouvrir à l'inscription et tout, ça va être super.
Mmh. Bon, Vanessa, la suite alors ?
Alors, la suite. Donc, hier, dans ce jardin Charles Aznavour, c'est l'œuvre Salon d'Alison Saar qui a été dévoilée. Mmh. C'est une œuvre donc, qui fait le lien avec les Jeux Olympiques et les valeurs des Jeux Olympiques, puisqu'elle célèbre la diversité ethnique, mais aussi.
La diversité technique, oui, vas-y, continue.
Excusez-moi. Ouais. Et voilà, donc Alison Saar a fait un discours. C'est une sculpture qui a été produite entièrement en France, avec des matériaux locaux, et produite aussi par des artisans français. C'est une ode à la diversité et c'est un espace actif. C'est une œuvre avec plusieurs chaises qui sont disposées et la sculpture qui tient la flamme.
Bref, allez voir là-bas sur place.
Voilà,
c'est le meilleur moyen. Voilà.
Exactement. Hein? Il faut aller la voir. Mmh.
Très bien. Et puis, des nouvelles de Madame Hidalgo, elle va plonger ou pas?
On n'a pas eu trop d'informations là-dessus. Parce que aujourd'hui,
on a des mauvaises infos comme quoi, apparemment, la qualité de la scène, ça ne s'est toujours pas amélioré. Hein.
Tout à fait. Et donc, on se pose toujours la question. Après, ce qui avait été dit et redit, c'est qu'avec la météo, il y avait des chances que ça s'améliore. Évidemment, le doute plane. Donc, on va attendre pour voir ce qui se passe en espérant qu'évidemment, tout va bien se dérouler. C'est là l'objectif et l'intention. D'ailleurs, Thomas Barr a accordé une interview à nos confrères de West France dans lequel il s'est dit serein et rassuré pour le bon déroulement des Jeux, aussi bien pour tous ces aspects-là que pour la situation politique, géopolitique internationale.
Très bien. Eh bien, nous, avant même donc cette journée du 23 juin, il y a eu aussi, c'est vrai que maintenant les choses avancent, on est à quelques semaines hein, de ces Jeux, il y a eu à Châtenay-Malabry, la semaine dernière, l'inauguration du Grand Creps. Alors, le Grand Creps, eh bien, c'est un établissement qui permet de former les meilleurs sportifs de demain, les futurs grands du sport avec 17 pôles Espoir et 2 pôles France. Il a été rénové, transformé et modernisé pour répondre naturellement à l'exigence du sport de haut niveau. Et il y a même il y a eu l'ouverture d'un premier lycée intégré au sein donc de ce Creps France, c'est-à-dire un sport et études en toute quiétude. Donc naturellement, c'était une bien belle cérémonie. Et sous le parrainage, eh bien de Valérie Pécresse, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France. Alors c'est vrai que cette cérémonie, elle tombait quelques heures après, même quelques jours après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors on a demandé tout simplement à Madame Pécresse si cela pouvait avoir un impact sur les Jeux.
Donc moi, ce que j'espère vraiment, c'est que les Jeux pourront être tenus à l'écart de toutes les turbulences politiques qui pourraient arriver dans le pays. Et je le dis vraiment sincèrement et avec tout mon cœur, c'est des années de travail, la préparation des Jeux, pour des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Français qui se sont donnés à corps perdu dans la préparation. Il y a les sportifs, il y a les entraîneurs, mais il y a aussi tous ceux qui ont construit les infrastructures, tous ceux qui font rouler les trains, tous ceux qui feront la sécurité, tous ceux qui feront l'hospitalité. Donc voilà, vraiment un vrai cri du cœur. Ne laissons pas les Jeux être pris en otage de la politique. Faisons vraiment une union nationale autour de ces Jeux, une trêve olympique, c'est ce que je demande. Et quels que soient les combats politiques qui vont avoir lieu, vraiment, ayons cet esprit de responsabilité de tenir les Jeux en dehors de tout ça. C'est trop important pour tous ceux qui y ont œuvré, pour tous ceux qui croient aux valeurs du sport. C'est un moment unique pour notre pays. Donc vraiment, laissons-les à l'écart de tout ça.
Et d'une certaine manière, vous avez le sentiment d'une prise de risque inconsidérée dans la perspective des JO?
Ah bah bien évidemment, moi c'est, je l'ai dit, j'ai dit que je considérais que le président avait joué à la roulette russe avec le destin du pays en faisant cette élection de manière aussi précipitée. En réalité, vraiment, il aurait fallu laisser passer cet été et faire ces Jeux, j'allais dire, de manière sereine. Les Européennes avaient un message très fort adressé au président de la République, il l'a entendu. Mais en même temps, je pense que vraiment, c'est un pari beaucoup trop risqué que de faire ces élections maintenant, je l'ai dit. Maintenant, il faut les faire. Et dans ces conditions, je demande vraiment à toute la classe politique de notre pays d'être responsable. Hier, nous avons reçu Thomas Barr avec Anne Hidalgo, avec Stéphane Troussel, avec tous les élus de Seine-Saint-Denis, de Paris, de la métropole, de la région. Et nous avons tous réaffirmé, quelles que soient nos étiquettes politiques, que vraiment, nous soutenions ces Jeux. Tout le monde va nous regarder, il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes et le plus beau visage au monde, et un visage de cohésion.
Et concrètement, quelles sont les craintes que vous nourrissez, justement, dans ce télescopage entre qu'est-ce qui pourrait nuire à la bonne tenue des JO?
Qu'on se montre désunis alors qu'on a besoin de cette unité pour réussir cet exploit de recevoir le monde chez nous. Et puis aussi parce que nos athlètes ont besoin que tout le pays soit derrière eux et ils n'ont pas besoin d'un pays désuni. Je pense que vraiment l'unité fera notre force. Donc quel que soit les turbulences politiques. Je pense que les Jeux doivent être préservés de ces turbulences.
Et quant au risque, merci. Hein.
Voilà, effectivement, hein, on espère en tout cas que l'unité demeurera. Alors, autre interviewé, c'est celui qui a été quand même un double champion olympique de sabre hein, et ancien ministre des Sports. C'est Jean-François Lamour qui porte aussi un regard sur un petit peu la santé du sport français. Jean-François Lamour, Jean-François, on a passé une belle matinée avec cette inauguration du Grand Creps.
Ben oui, parce que c'était à la fois un Creps chargé d'histoire, qui avait besoin d'un sacré coup de neuf, et là la région a vraiment mis le paquet pour rénover dans la préparation des JO ce magnifique équipement, hein, propriété de la région, qui fonctionne en lien étroit avec le ministère des Sports, avec l'État. Et puis j'aime bien un peu cette formule qui fait vraiment de réouvrir une partie du Creps pour les habitants de Châtenay. Car Segault, le maire de Châtenay, l'a évoqué. C'est bien aussi de faire en sorte qu'il y ait un peu de porosité entre la recherche de l'excellence sportive et puis un lieu de vie, hein, qui est un lieu de vie au sein de Châtenay. Et puis il se passe des choses magnifiques hein, dans ce Creps, puisqu'on prépare les jeunes générations et puis surtout on prépare un certain nombre d'athlètes pour les Jeux. Voilà, donc c'est d'actualité. Voilà.
On a la chance quand même en France d'avoir maintenant des infrastructures tout à fait compétitives.
En tout cas, à travers le Creps de Châtenay, oui. Après, on voit bien que la place du sport à l'école est encore portion congrue. Et il faudrait que les établissements scolaires, je pense en particulier aux collèges et aux écoles primaires, fassent un peu plus de place au sport. Et je pense que la complémentarité entre des équipements comme ceux-là, les petits clubs locaux qui ont des équipements communaux et puis des équipements plus structurants, c'est la clé pour former une nation sportive. J'espère que les Jeux vont permettre un coup d'accélérateur dans tout ça.
Oui, et puis il y aura l'héritage des Jeux. On espère qu'on va rester sur de bonnes résolutions.
Oui, on en parle beaucoup de l'héritage. Hein. Alors il est très très centré Seine-Saint-Denis. Bon, voilà, c'était un choix de l'équipe d'organisation, c'est très bien, parce qu'on peut comprendre que la Seine-Saint-Denis en manque, mais il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis hein, en Ile-de-France, et heureusement que la région est là pour justement compenser ce tropisme dionysien, comme on dit, en portant les efforts sur des départements comme le Val-d'Oise, comme l'Essonne, comme le Val-de-Marne, qui étaient finalement tenu à l'écart des JO. C'est ça l'héritage aussi, hein. C'est pas simplement limiter les efforts à un ou deux départements, mais c'est le faire au moins sur une région, et évidemment essentiellement aussi sur toute la France.
En tout cas, nous allons vivre un bel été, ça va être une belle fête, hein. On va être le regard du monde.
Oui, et j'ai bien apprécié le mot de Valérie Pécresse, qui était de dire il faut tenir les Jeux en dehors de la politique, au sens il y a de la politique dans les Jeux, mais là, on rentre dans une phase où, évidemment, ça va encore être très animé. Il ne faut pas que ça soit un enjeu des élections législatives. Elle a tout à fait eu raison d'insister là-dessus et j'espère qu'elle va être entendue.
Merci en tout cas.
Merci.
Voilà. Loane, vous êtes formé où, les arbitres? Parce qu'on parle des Creps pour les futurs grands sportifs, hein, même ceux qui vont apprendre les métiers du sport. On vous forme où? À Clairefontaine?
Non.
Clairefontaine, je connais bien.
On commence par des formations initiales à l'arbitrage, qui sont dans nos districts.
Oui.
Et puis après, on monte par la Ligue. Et aussi, après, on peut arriver à Clairefontaine pour passer les caps fédéraux.
Très bien. Avant de reprendre nos interviews, je vais saluer notre ami Julien Géraffi, agent de joueur. Salut Julien, ça va?
Bonsoir à tous.
Pleine forme. On a de bons souvenirs. Hein.
Très bonne
forme. On remet ça.
Désolé pour ce petit.
Et puis je vais aussi saluer donc Alexandre. Ça va Alexandre?
Salut Philippe, salut à tous.
Hein, toi aussi, donc, tu as suivi tout ça?
Non, on a suivi tous les sports ce week-end.
Voilà, c'est bien. Allez, on va écouter maintenant Michel Godard. C'est le directeur du Creps d'Île-de-France. On l'avait reçu dans nos émissions il y a quelques temps. Et puis lui va partir en retraite avec tout simplement la satisfaction du devoir accompli. Allez Michel Godard, bien belle matinée. Hein.
Très belle matinée, il y a la reconnaissance d'un travail qui a été en fait réalisé par le Conseil régional pour donner une partie qui est d'excellence au sein de l'établissement, et l'établissement pourra désormais accueillir bien entendu, de nombreuses délégations étrangères et françaises qui préparent les Jeux Olympiques, mais aussi après les Jeux. Donc, c'est un très beau moment.
Oui. c'est un des grands outils pour le sport français maintenant.
C'est un grand, c'est un grand outil pour le sport français, pour la région Île-de-France, hein, parce que c'est quand même d'abord territorial, hein, et puis c'est important pour cette région qui le mérite et qui est la plus grande région de France.
Alors, vous allez finir votre mandat, vous allez terminer le 31 août. C'est une belle satisfaction de finir là-dessus.
Oui, ben, je termine le mandat du CREPS, les travaux seront terminés. Je peux partir tranquille, le travail a été accompli.
Vous allez continuer à vous investir après dans le sport
Oui, bien sûr, parce que moi je suis secrétaire général de la Fédération de Hand, donc c'est un vrai métier.
Les Jeux, c'est magnifique, on va vivre un bel été. Est-ce qu'on peut être un petit peu inquiet par les turpitudes politiques?
Non, moi je me dis qu'on est en France et que les choses se feront. Tant dans la réalisation des ouvrages que le fonctionnement, l'organisation, tout ça, ça se fera sans problème.
Il y aura beaucoup d'émotions à votre départ, Michel?
Ah oui, il y a toujours de l'émotion parce que bon, 8 ans, c'est une petite... maîtriser, l'émotion maîtrisée à mon âge.
Voilà, merci en tout cas à Michel Godard. Allez, dernière interview concernant cette page olympique, eh ben celle de Pascal Gentil. Hein, il était gardien de but hier, je l'ai croisé, donc on a passé la journée ensemble. Et vous allez voir, plus que son rôle de gardien de but, il est surtout, lui, impatient maintenant de vivre ces Jeux olympiques. Bon, bah Pascal Gentil, je ne vous connaissais pas, gardien de but.
C'est tout nouveau pour moi. Aujourd'hui, c'est la journée olympique, donc on peut s'essayer à tout. Ici un match des légendes avec Valdo, avec Bernard Lama, avec d'autres grands sportifs de haut niveau. Jean-Marc Marmet qui n'a pas pu se joindre à nous, mais voilà, l'esprit est là. On est à 34 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques et on a hâte d'y être et on va accueillir dans les aéroports parisiens les athlètes du monde entier. Là on avait une belle équipe ADP, je crois qu'on finit sur le podium. On a hâte d'avoir la remise de récompense dans quelques minutes.
Oui, surtout il y a les premières délégations qui sont arrivées, hein, je crois, le 18 mai. Hein.
C'est ça, les premières délégations sont arrivées le 18 mai, avec des équipes qui arrivaient d'Australie et également de Chine, pour les équipes de canoë et kayak. Et il y a de plus en plus d'équipes qui prennent leur quartier, notamment l'équipe olympique cubaine qui est arrivée il y a 2 jours, qui séjournera à Tremblay en France. Et voilà, j'ai la chance d'être... aux premières loges pour accueillir tous ces athlètes du monde entier. La semaine dernière, j'accueillais Tommy Smith. Tommy Smith, cet athlète international américain qui, à Mexico en 68, avait dressé le point levé pour lutter contre les discriminations dans son pays. Voilà, même moi, à 50 ans, j'en prends plein les yeux. Et les Jeux Olympiques, ça va être une opportunité d'en prendre plein les yeux et de vivre quelque chose d'unique.
Tout est pratiquement prêt. Est-ce qu'on peut être un peu inquiet pour la scène?
Non, tout est prêt, on l'a dit, Anne Hidalgo va plonger dans la Seine dans quelques jours, les sportifs de haut niveau sont prêts, on décroche tous les quotas, les derniers qualifiés seront sans doute du côté de l'athlétisme, et voilà, on sent vraiment monter l'engouement dans notre pays depuis le 8 mai, cette flamme est arrivée à Marseille, et l'engouement est en train de gagner petit à petit le pays, les Outre-mer. Et on est très très content, on est très très fiers.
Et les anneaux brillent toujours assez légers, hein, à l'aérogare 1.
Oui, les anneaux olympiques sont bien dressés en haut du terminal 1 de l'aéroport. Ils sont aussi également à la tour Eiffel. Et voilà, on est content, ça va être une belle fête.
Merci Pascal.
Merci. Merci à toi.
Voilà, merci à Pascal Gentil, un double médaillé olympique de taekwondo, quand même c'est pas rien. Il est maintenant donc chargé de mission des Jeux Olympiques et Paralympiques au sein du groupe ADP. On avait déjà eu l'occasion de l'interviewer le jour où les anneaux avaient été donc dévoilés à l'aérogare de Roissy, Charles de Gaulle, aérogare 1. Julien, l'homme du foot va suivre les Jeux aussi?
Oui, bien sûr.
Je crois que tu as des billets, non? Tu m'as dit.
J'ai des billets, effectivement, ouais. Pas que pour le foot d'ailleurs.
Oui, c'est ça, tu me l'avais dit. Ouais.
En tant que passionné de sport, je pense qu'on aime tous les Jeux Olympiques.
Bon, toi, t'es parisien, ça va pas. Ça te gêne pas?
Ça me gêne pas, dans quel sens
de voir peut-être détourner son chemin.
Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, effectivement. Oui, oui. D'une manière ou d'une autre, je pense qu'on sera tous gênés un petit peu. Mais bon, c'est une fois dans notre vie, je pense, les JO à Paris. Donc, autant en profiter, voir le positif de la chose.
Très bien. Alors, maintenant, la suite, c'est la flamme olympique.
La flamme, hier, elle était à Chamonix.
Oui. J'ai vu un funambule qui l'a porté dans le vide, c'est fou quand même.
Tout à fait. Et d'ailleurs, la semaine dernière, il y a eu beaucoup d'expériences grandioses, à commencer par la flamme olympique qui était à Villefranche-sur-Mer, et puis il y avait l'apnéiste Alice Modolo qui a remonté la flamme depuis 20 mètres sous les mers. C'était fabuleux comme spectacle, cette séquence sous-marine, justement. Et vous le savez, Philippe, la France excelle dans la discipline d'apnée. Oui. Puisque tout le monde se rappelle du film Le Grand Bleu, et puis on a de grands champions, y compris Alice Modolo, qui est détentrice de certains records, ainsi que Guillaume Néry et Arnaud Géry.
Oui.
Voilà. Et puis la flamme, justement, elle a continué son parcours à Grasse, Cannes et Monaco.
Que des beaux coins.
Beaux coins, évidemment, Grasse, la capitale du parfum, Cannes.
Oui.
On ne présente plus. Oui, elle a monté les marches, la Cannes, la flamme.
Oui, plutôt. Ouais.
Et puis à Monaco, évidemment, il y avait évidemment Son Altesse Sérénissime Charlène de Monaco. On le rappelle qu'elle a aussi été une Olympienne. Et puis le prince Albert de Monaco. Et puis, elle a continué son parcours à Antibes, Juan-les-Pins, Nice, évidemment. Je rappelle que Juan-les-Pins, en fait, est jumelé avec la ville d'Olympie. Mmh. Et il y avait 157 relayeurs sur cette étape. Il y avait Stéphane Diagana, évidemment, le champion du monde d'athlétisme des 400 mètres en 1997. Alain Bernard, notre autre grand champion tricolore. Alizé Cornet, qu'on ne présente plus non plus, 9 titres au WTA en tennis. Rulia Pereira de Souza, qui est la plus jeune médaillée olympique des JO d'hiver de Pyeongchang en 2018 en snowboard. Et puis, exactement, et également Natasia Nohan, c'est décidément, j'ai du mal aujourd'hui, 8 fois championne de France de slalom en ski alpin, et Alexis Pinturo, évidemment, en ski alpin également.
Ouais, que des grands noms.
Et puis, vraiment, c'est aussi ça, le parcours de la flamme et la magie du parcours de la flamme. Elle a également été dans le Vaucluse, au cœur de la Provence, avec ses paysages toujours aussi magiques. Il y avait le DJ Bob Sinclair qui était présent, Jean-Claude Amoureux qui a été médaillé au JO de 1976 aux 4x100 mètres, Michael Guigou, le handballeur trois fois champion olympique, Alexis Michalik, acteur et metteur en scène, et puis il y avait un relais collectif de cyclisme sur le Mont Ventoux. Le paysage, évidemment.
C'est sûr, c'est des hauts lieux du sport cycliste, mon Ventoux.
Et puis on avait aussi Anne-Caroline Chausson qui était médaillée au JO de Pékin en 2008. Mmh. Après, la flamme, elle a brillé dans la Drôme, dans le Vercors, sur le mont d'Ardèche, toujours des paysages vertigineux. Et elle a voyagé à Montélimar, capitale du Nougat, évidemment, et puis à Romans-sur-Isère, et jusqu'à Valence. Et à Valence, justement, on a retrouvé des athlètes et des para-athlètes, dont Guy Taupin, le 3 fois champion olympique de paracyclisme, et Florian Joigny. Anne-Sophie Lepic était également là, et c'est elle qui a allumé le chaudron. La flamme, elle a été à Vichy et en présence de Théo Curin qui a allumé le chaudron. Théo Curin, paranageur, vice-champion du monde en 2017 sur 100 et 200 mètres nage libre. Et puis de nombreux autres athlètes, étaient présents également. À Saint-Étienne.
Ah,
à Saint-Étienne.
Là, tu peux pas l'oublier.
À Saint-Étienne. Et bien là, évidemment, là, dans le mythique stade Geoffroy Guichard.
Celui qui l'a ouvert, qui l'a allumé, tu peux pas l'oublier.
Dans le mythique stade Geoffroy Guichard, mais évidemment, c'est Jean-Michel Larquet qui a allumé le chaudron. Et puis, elle a continué son parcours, cette flamme, à Chamonix hier, en Haute-Savoie. Mmh. On l'a dit tout à l'heure avec le funambule, et puis en présence d'Alain Calma, que je salue d'ailleurs, dont on a parlé la semaine dernière, puisqu'on parlait patinage artistique. Donc vice-champion olympique à Grenoble en 1964, et il a été champion du monde en 65 et 3 fois champion d'Europe. Il a également été ministre délégué à la jeunesse et des sports entre 84 et 86. Il y avait également Marie Bochet, 8 fois championne paralympique, 12 fois championne du monde en ski alpin. Que des grands champions, évidemment. Et puis c'était des relais collectifs hors normes aussi qu'on a retrouvés au niveau du sud des célébrations, des temps forts de la journée avec 17 anciens porte-drapeaux. Martin Fourcade, évidemment, qu'on ne présente plus, le plus connu des biathlètes. Et évidemment, on a retrouvé Carole Montillé, Tessa Worley en ski, Jason Lamy-Chapuis, Kevin Roland, Philippe Candeloro, Vincent Defrane et aussi Nadine Laurent en descente. C'est Marie Bochet, donc 8 fois titrée des Jeux Paralympiques d'hiver, et Alain Calma, vice-champion olympique en 1964 de patinage artistique, qui ont allumé la vasque au... Lui avait allumé la vasque, excusez-moi, aux Jeux Olympiques de Grenoble en 1968. Et puis voilà, une belle fin pour cette journée olympique.
Ouais, voilà. Les jeux sont ça. Ce sont ça les jeux. Voilà. Allez, Alexandre, toi tu vas nous donner les autres infos. J'allais dire extra foot. Hein. Alors je sais qu'on connaît l'affiche de la finale du championnat de France de top 14 pour le rugby.
Oui, je vais vous en parler. Ouais. Donc on commence ce journal des sports justement avec le rugby et les résultats des demi-finales de top 14. Le Stade Toulousain a remporté sa partie contre le Stade Rochelais 39-23 et Bordeaux-Bègles s'est imposé 22-20 contre le Stade Français. On aura donc droit à une finale entre le Stade Toulousain et Bordeaux-Bègles au Stade Vélodrome ce vendredi à 21h05 pour être précis.
Et c'est à Marseille. Hein, ouais.
Donc c'est à Marseille, au Vélodrome.
Il y a beaucoup d'ambiance à Marseille, même
beaucoup,
pour le rugby.
Beaucoup d'ambiance, ouais. Parce que le Sud c'est quand même ouais. Terre de rugby. Ce week-end, il y a également eu le Grand Prix d'Espagne en Formule 1. Et sans surprise, c'est Max Verstappen qui a remporté ce Grand Prix devant Lando Norris et Lewis Hamilton, qui retrouve enfin le podium après beaucoup de courses à être dans le ventre mou du classement. Bon week-end pour Mercedes justement, puisque George Russell finit à la course à la quatrième place. Au classement des constructeurs, c'est Red Bull qui est toujours leader avec 330 points, suivi par Ferrari 270 points et McLaren 237 points. Il y avait aussi les championnats d'Europe d'escrime qui se sont terminés ce week-end à Bâle et les Françaises ont réalisé un très bon tournoi puisqu'elles ont terminé première du sabre par équipe. À noter également la bonne performance et la médaille d'argent pour Oriane Malo-Breton en épée individuelle. Pour l'épreuve des épées par équipe, les Françaises obtiennent le bronze. Chez les hommes aussi, la France était à l'honneur en Suisse puisque les Français ont décroché la médaille d'or en épée par équipe et en fleuret par équipe. À noter la grosse performance du Français Luigi Middleton qui remporte la médaille d'or en épée individuelle. Que de bons présages pour ces Jeux Olympiques, Philippe.
Après l'athlétisme, l'escrime, donc c'est bien.
Ouais,
après
c'est
les bons
très, très
temps au championnat d'Europe, c'est bien pour ces deux sports.
Oui, en plus, là, je vous parlais de la natation, puisque oui. C'était les championnats de France oui. Qui se sont terminés ce vendredi. Ils seront 30 nageurs français à disputer les Jeux Olympiques à domicile à la Défense Arena, dont 17 qui ont décroché une qualification individuelle, 14 femmes et 16 garçons qui seront menés par leur capitaine Florent Manaudou, qu'on ne présente plus, et Charlotte Bonnet, et portés par leur star Léon Marchand, qualifié pour 4 épreuves, et Maxime Grousset, le champion du monde du 100 mètres papillon, qui nagera 3 courses aux Jeux Olympiques. Et pour finir ce journal des sports, on va parler cyclisme et c'est Paul Lapeyra de la formation Decathlon AG2R, la mondiale, qui a remporté le championnat de France de cyclisme sur route ce dimanche à Saint-Martin-de-Landelle. Pour les femmes, c'est Juliette Labou de la formation DSM Firmenich qui a remporté la course. À noter qu'Audrey Cordon-Rago et Bruno Almirail sont les deux vainqueurs de la course contre la montre.
Oui, c'était chez le speaker Daniel Mangias qui faisait d'ailleurs son dernier commentaire de course. Et on est à 6 jours donc, du départ du Tour de France. Elle est folle là-dessus. Hein.
Voilà. Elle est folle, ouais.
Ouais. Allez, on va écouter Françoise Hardy. On voulait lui rendre hommage, c'est normal, hein, tous les garçons et les filles. Et ensuite, on va passer au ballon rond et à l'euro. Là aussi, on a beaucoup de choses à vous dire et à vous raconter.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Bien ce que c'est qu'être heureux, et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne. Ils s'en vont.
Allez, on repart donc avec nos invités. On va parler foot. On va d'abord demander à Loan un petit peu l'itinéraire pour devenir arbitre. Ça se passe comment ?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais. On commence par une FIA, une formation initiale en arbitrage qui est au sein de notre département, du coup notre district. Après, on passe de la théorie, des lois du jeu. On apprend beaucoup de questions-réponses sur la loi du jeu. Puis, on passe au niveau de la ligue.
Ouais.
On fait la même chose. Théorie, après on est observé sur le terrain par des observateurs, et après on peut éventuellement accéder à la fédération, toujours par le même principe.
Oui. Pourquoi l'arbitrage ? T'as joué au foot, non ?
J'ai joué au foot.
Et puis au bout d'un moment, tu te sentais mieux arbitre que...
Jusque 17 ans, j'ai un petit frère, j'allais l'arbitrer lui quand il jouait.
Ouais.
Et puis bah, du coup, de fil en aiguille, je me suis pris au jeu et je me suis lancé moi-même.
Alors quand t'as dit à tes proches que tu voulais être arbitre, quelle a été leur réaction ? Parce que bon, je suppose que...
Très bonne réaction. Ça a été un cadeau de Noël gratuit parce que
t'as annoncé ça comme ça à la campagne.
Non. Mes parents eux étaient ravis. Hein.
Ils pas dit ouais, mais tu vas te faire insulter tous les week-ends, non ?
Pas du tout.
Non.
Pas du
non,
tout.
Bah, tant mieux.
J'aime à éviter le sujet parce que on ne pense pas à ça quand on va arbitrer.
D'accord. Donc aujourd'hui, tu es de niveau N2, c'est ça, hein, au niveau de l'arbitrage ?
Je suis assistant en N2 et en N3 principalement, oui.
Ouais. Donc ça met combien de temps pour arriver à ce niveau ? Tu as mis combien de temps, toi ?
Alors moi, j'ai commencé en 2011 et on commence par les jeunes, comme du coup j'avais 15 ans.
Après, noter à chaque fois, tout ça.
Et exactement, théorie, comme je l'ai expliqué. Et puis après, on passe dans le monde senior, chez les adultes, et puis même principe que chez les jeunes. Théorie et puis observation. Par les observateurs, anciens arbitres.
Oui, alors avec un livre que tu as emmené là pour les règles du jeu. Hein, donc, par exemple, tu nous as dit, on l'avait dit avec Darius dans le commentaire, le but devait bien être annulé pour le but hollandais. Hein.
Oui.
Toi, tu l'aurais annulé.
C'est quoi
la règle exacte ?
Là, en fait, si vous voulez, le joueur effectue une action évidente qui influence clairement la capacité d'un adversaire à jouer le ballon. L'arbitre c'est mis, on va dire, derrière cette notion qui est dans les lois du jeu, et du coup il s'est rapporté à ça simplement avec l'usage de la vidéo pour invalider le but.
D'accord. Et ton ambition, toi, c'est naturellement de vivre complètement de ce métier, quoi. Parce qu'actuellement, c'est deux métiers, c'est un complément, quoi.
Moi, déjà, c'est ma passion, principalement.
Moi, déjà, surtout, plus qu'envie de sa passion, c'est super.
C'est pas un métier pour moi.
Ouais, c'est bien de parler comme ça.
Voilà.
Et j'ai mon... C'est comme nous, les journalistes, c'est pareil, c'est bien.
Et j'ai mon activité professionnelle à côté.
Ouais. D'accord. Mais ton objectif, c'est de ne vivre que de ta passion.
D'essayer de gravir les échelons,
Bon, il y a un âge limite ?
Alors, pour arriver à la fédération... C'est une trentaine d'années, 30, 31 ans.
Oui.
Et puis après, non, pour pouvoir arbitrer chaque match, il n'y a pas d'âge limite.
Pardon. Oui, mais enfin, tu ne vas pas arriver à haut niveau à 40 ans, si c'est possible ?
Non, c'est pas possible.
Je blague, je sais bien que ce n'est pas possible. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a... Tu as un modèle dans l'arbitrage ? Il y a des arbitres que tu admirais plus que d'autres ?
Pas forcément, parce que j'ai aimé directement la corporation, disons, l'arbitrage. J'ai regardé beaucoup les matchs. Alors, j'aime beaucoup le foot, hein. Attention, ouais, bah, on arrive sûr. À l'arbitrage parce qu'on aime le foot, sinon ça ne sert, ça sert à rien. Mais j'ai pas de modèle particulier. J'aimais bien regarder Clément Turpin quand j'étais plus jeune, parce qu'il il faisait quelques scènes de théâtre, etc. Il faisait quelques conférences sur l'arbitrage. Et je trouvais ça super intéressant.
Parce que si on parle de Michel Vautreau ou de Joël Quignoux, t'es peut-être un peu jeune, non?
J'ai pu voir des vidéos.
C'était les meilleurs arbitres français à l'époque. La VAR, bon, naturellement, à ton niveau, tu la pratiques pas. Mais t'es pour ou t'es contre?
Elle a été demandée, la VAR.
Ah, ça veut dire que t'es contre.
Non. Maintenant, elle est là, donc tout le monde doit faire avec, malgré tous les contestations qui peuvent subsister de la part des clubs, de l'encadrement, etc., des joueurs aussi, principalement. Mais elle est là, chacun la voulait.
Alors, c'est vrai que ça enlève quand même des injustices, quoi.
Ça règle
la Golden Line et puis la VAR, ça enlève quand même peut-être quelques injustices, quoi.
La Golden Line est primordiale,
Après, bon, il y a des buts qui n'auraient pas été acceptés, hein. Y a des matchs d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, probablement qu'aujourd'hui, s'il y avait la VAR, ces buts n'auraient pas été acceptés, quoi.
Peut-être.
Je peux te le garantir. Et le hors-jeu? Aujourd'hui, d'une toute petite main, on est hors-jeu. À notre époque, on aurait été sur la même ligne.
Je vais rectifier.
C'est l'épaule.
Parce qu'on peut, on peut pas être hors-jeu avec le bras ni la main. C'est la limite supérieure du bras. Ouais. Ça se dessine au niveau du bas de l'aisselle. Donc voilà. J'ai coutume de dire que lorsqu'on est sur la route et qu'on dépasse la vitesse de 1 km/h, on a des contraventions. Voilà. La règle, elle est binaire, c'est comme ça.
Et est-ce qu'il ne faudrait pas mieux pour le grand public qu'on puisse connaître la décision des arbitres, que les arbitres puissent pouvoir expliquer ou qu'on puisse lire leur décision devant notre écran de télévision?
Ça pourrait être intéressant pour la compréhension.
Oui, pour le grand public.
Bien sûr, pour la compréhension, mais ça peut être compliqué parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, le livre des dates du jeu, par exemple, c'est pas compréhensible forcément des amoureux du foot, si vous voulez. Parfois, il y a l'esprit, la règle. Voilà. Oui, on essaie de jongler entre
justement, eux. Ça, c'est souvent une chose qui revient. C'est encore plus fréquent sur le rugby. Mais sur le foot, effectivement, parfois, comme on dit, il y a des questions d'interprétation.
Exactement.
Donc ça, ça veut dire que le jugement humain sera toujours plus fort.
Oui, bien sûr.
Quel que soit, même si on a des outils comme la VAR, ça restera. Et il est normal qu'un arbitre se trompe, parce que c'est pas non plus dans la culture foot de... Il faut l'admettre. Comme la main de Maradona en 86, comme la main de Vata en 89, c'est dur, mais est-ce que finalement, on ne doit pas l'accepter?
Il faut accepter, mais vous regarderez beaucoup de matchs et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'erreurs d'arbitrage.
Julien?
Oui, non, moi je me posais la question, est-ce que ce n'est pas plutôt dans son utilisation qu'elle est problématique là-bas? Dans le système de notation des arbitres notamment, je ne sais pas si c'est une réalité, mais de ce que j'avais compris, un arbitre qui va se référer à la VAR et qui change sa décision... perd des points
en fait, dans le système de notation.
Donc c'est une réelle problématique pour prendre des décisions honnêtes et justes, puisqu'à l'inverse, celui dans la VAR, s'il sollicite et que la décision ne change pas, il perd aussi des points dans sa notation.
Alors ça, moi je pourrais pas répondre à 100% parce que je connais pas les tenants et les aboutissants du système de classement qu'il y a surtout au niveau fédéral avec la VAR, mais c'est des choses.
Non, mais c'est un arbitre appelé Lavar, il perd des points.
Il y a un arbitre qui lui expliquait ça récemment.
Oui.
Et c'est vrai que.
Pas langue de bois, Loan.
Quand on entend cette explication-là, effectivement, on se dit qu'un arbitre n'a pas forcément envie de consulter Lavar très régulièrement derrière, il est face à une décision délicate, personnellement d'abord, et ensuite, il va regarder d'abord son intérêt, ce qui est normal, plutôt que l'esprit. En tout cas, c'est une possibilité.
Oui. Darius?
Non, mais je suis d'accord avec Julien. C'est vrai que c'est dommage d'aborder. Que l'arbitre soit confronté à des dilemmes d'intégrité dans un match. C'est vrai qu'il est surtout là pour les joueurs et les spectateurs, que ça ne devrait pas être des questions personnelles d'ambition professionnelle. Mais après, je trouve que la VAR, elle a quand même aidé le sport. Dans le sens où ça rassure un peu le spectateur. Ça aide le joueur à comprendre.
Ça enlève des injustices, dirons-nous, qu'on n'aurait probablement pas...
Mais il y aura toujours des injustices dans le sport.
Peut-être. Mais un peu moins quand même la main de Vata ou celle de Maradona. Aujourd'hui, on les verrait, quoi.
Voilà, voilà. Ouais, on s'en crée des nouvelles.
Ouais.
Moi, je reste partagé quand même sur, ouais, sur l'Avare, parce qu'en fait, en réalité, un match, c'est fait de plein de détails, petits détails, mm-hmm, et ne pas prendre de décision sur un corner ou un 6 mètres, c'est un détail qui a un impact. Oui. Et de la même manière, il y a plein de décisions qui ne sont pas prises en compte, oui, qui pourraient avoir un impact sur le match. Donc,
et puis si on est meilleur, ça devient qu'un détail. Voilà, c'est ça, c'est toujours pareil. Hein. Mm-hmm. Ça prend des proportions quand on n'est pas meilleur que l'adversaire. Oui, là, quand on est meilleur, ça devient qu'un détail. Quoi.
Et le fait qu'il, ouais, y ait de la vidéo, ouais, l'erreur est moins pardonnée aussi. Donc ça, mm-hmm, ça engendre une problématique différente.
Mm-hmm. Alexandre, t'as un commentaire ?
Franchement, j'ai plein de commentaires à dire, mais si je devais en retenir... Enfin, je suis d'accord, en fait, pour moi, la VAR, c'est dans l'utilisation qu'elle est mauvaise. Et dans tous les cas, à partir du moment où il y a une interprétation qui est faite, il y aura toujours une injustice. C'est pour, ouais, ça que la goal line, c'est différent, parce que c'est, ah, binaire. C'est, ouais, soit, merci, ça rentre, ouais, soit ça rentre pas. Alors qu'une faute, il y aura toujours des gens qui vont dire qu'il y a faute, d'autres gens qui vont dire qu'il n'y a, mmh, pas faute. C'est pour ça que c'est un débat
donc
sans
l'humain,
fin.
Donc l'humain restera toujours maître. Voilà. Voilà. Il faut d'ailleurs. Il faut.
Mais je retiendrai ce qu'a dit Lohan, c'est que j'avais vu une statistique, enfin, bon, après, on peut dire ce qu'on veut des statistiques, mais j'avais vu une statistique avant, enfin, au moment de l'apparition de la VAR, qui disait qu'un arbitre prenait 98% de bonnes décisions dans un match. Donc au final...
C'est ce que disait Lohan, il y a très peu d'erreurs d'arbitrage finalement, quand on regarde.
On apprécie à le ouais, souligner. Voilà. Cette statistique. Hein.
Très bien. Allez, on va parler de l'Euro maintenant. Alors, je vous propose simplement, eh ben, avant de rentrer donc, dans le commentaire des différents groupes, on a passé dans l'avant-match vendredi, on va vous le repasser, ce supporter français que j'ai eu l'occasion donc, de rencontrer à l'aéroport de Düsseldorf. On s'est bien posé, on a discuté, on a parlé, il nous a raconté un petit peu sa vie de supporter et puis ses ambitions vis-à-vis de l'équipe de France. On va écouter donc Lucas juste après le match Autriche-France de lundi dernier à Düsseldorf. Allez, je suis avec un supporter parisien, Lucas. Lucas, ça y est, on va reprendre l'avion après le premier match face à l'Autriche. Comment t'as vécu cette soirée hier ?
Premier match pour la France, l'entrée en lice dans la compétition. Toujours difficile voilà, de rentrer dans une compétition aussi importante comme l'Euro. On savait que ça allait être un match difficile.
Oui, l'Autriche, c'est pas facile à jouer. Voilà.
L'Autriche a une belle équipe, il y a quand même des grands joueurs. On pense à Sabitzer, à là-bas. Tout avait pour être un match piège et finalement victoire 1-0, voilà un score moyen, un match mitigé, mais la victoire est là, c'est le plus important. Ouais.
Et puis des grosses satisfactions individuelles, notamment donc Kanté, Rabiot au milieu de terrain, même la défense. Bon, par contre l'attaque, excepté Mbappé, ça c'est peut-être le point négatif.
En attaque ça a été un peu difficile. Il y a des choix qui sont peut-être discutables. Par exemple Marcus Thuram, c'est vrai que je pense qu'il aurait plus à porter en attaque. On a vu un Mbappé qui pareil a fait une performance assez mitigée. Bon, bien sûr il est sorti blessé. Je pense que les changements sont peut-être arrivés aussi un peu tard. Giroud qui rentre à la 82e. Voilà, après c'est les choix du coach. Malheureusement c'est comme ça. L'important c'est la victoire, mais c'est vrai que peut-être en attaque il aurait pu avoir un peu plus d'animation.
Ouais. Mbappé blessé, c'est un handicap pour la suite de la compétition?
Bien sûr, quand on connaît la qualité du joueur et l'impact qu'il a sur l'équipe, que ce soit au niveau du capitanat et des performances, oui bien sûr. Après je pense que Didier Deschamps va trouver des solutions pour combler le manque de ce joueur. Et je pense qu'avec les atouts offensifs qu'il a dans le reste de l'équipe, il va réussir à faire de grandes choses pour la suite de la compétition.
Oui, parce que, bon, excepté peut-être l'Allemagne qui a fait une meilleure impression, mais toutes les grosses équipes qui sont rentrées dans la compétition ont assuré l'essentiel, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sans être très particulièrement transcendant et impressionnant.
Exactement. On pense par exemple à l'Angleterre. Voilà. L'Angleterre qui remporte un match quand même assez serré, 1-0 contre la Serbie, avec un but de Bellingham. Donc on se dit que sur la physionomie du match, le match de la France, il ressemble un peu à celui de l'Angleterre. Il y a quand même l'Espagne et l'Allemagne qui ont fait forte impression. Mais c'est vrai que sur les gros, on voit que le plus important pour ce premier match, c'était surtout d'assurer la victoire pour bien rentrer dans la compétition.
Oui. Bon, tu vas suivre d'autres matchs maintenant, tu rentres sur Paris, tu reviens ici en Allemagne ou c'est terminé?
Alors là, je vais rentrer sur Paris et normalement, on refait le dernier match de poule contre la Pologne. Donc on va suivre de Paris le match contre les Pays-Bas pour voir si déjà ils peuvent assurer une qualification et on sera là pour le dernier match de poule.
Quand on est supporter comme ça de l'équipe de France, on vadrouille un peu partout, c'est facile de trouver les bons plans, les bons coups.
Moi, j'ai la chance d'être en alternance, de travailler avec des gens qui sont dans le domaine de l'influence. Donc, ils ont des accès un peu privilégiés pour certains matchs. Donc, moi, j'ai aussi l'opportunité de pouvoir être sur ce genre d'événement. Je pense que pour les gens qui chargent des places, c'est parfois un peu difficile, surtout pour des événements comme ça, qui sont aussi à l'étranger.
Il faut aller que sur le site de l'UEFA. Hein.
Ouais, c'est. Je pense que les accès sont assez difficiles, mais les gens qui étaient au stade quand même hier étaient assez contents. Je pense qu'ils viennent aussi pour l'ambiance, pour l'atmosphère qu'il y a autour des compétitions. Et voilà, je pense que c'est aussi un grand moment de plaisir pour tout le monde.
Ouais. Comment tu sens la passion pour cet Euro en Allemagne ?
Bah, je pense qu'il y a quand même eu, dans toutes les grandes compétitions, que ce soit l'Euro, les Coupes du Monde, il y a quand même une atmosphère qui est spéciale. On le voit des gens qui viennent de tous les pays, surtout là en Europe, pour soutenir leur équipe. Donc même dans le stade, c'est beau, on voit le côté rouge, le côté bleu, par exemple, pour le match de la France hier contre l'Autriche. Donc c'est assez impressionnant et sur les ambiances, ça se répond des deux côtés, que ce soit dans le stade, en dehors, avec toutes les fan zones, etc. Donc non, c'est une belle atmosphère.
Oui, puis on a vu des panneaux un peu partout ici, dans Düsseldorf, qui annoncent vraiment qu'il y a des matchs sur l'Euro.
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de communication autour de ça. Après, ils savent que pour eux aussi, c'est un événement important, ils doivent faire les choses bien. Et je pense que ça a été bien fait. Il y avait beaucoup d'endroits ciblés dans la ville aussi pour avoir l'opportunité de rentrer un peu dans l'atmosphère de cet Euro. Et je pense que ça permet aussi de faire monter la pression autour du match pour qu'après la fête soit encore plus belle.
Ouais, bah, très bien. En tout cas, merci, bonne chance. Et puis, allez les Bleus. Hein.
Ouais, allez les Bleus, on espère qu'on va gagner.
Voilà, et puis Lucas, du coup, il va repartir. Il sera demain donc au match contre la Pologne. Alors justement, cet Euro, messieurs, comment vous le trouvez pour l'équipe de France, ce début hein, on va le rappeler, on le vit sur Montpellier FM et on vivra aussi le match demain face à la Pologne. D'ailleurs, je vous donne les rendez-vous 17h, 18h, l'avant-match. Le match entre 18h et 20h. Et après, donc 20h, 21h avec Malik. Donc, le débrief de ce match. Lohan, plutôt, optimiste. Bon, c'est vrai que 4 points, on n'a pas marqué beaucoup de buts. Hein, un seul but contre son camp pour l'équipe de France grâce à un défenseur autrichien. Mais enfin, 4 points quand même.
On a plutôt l'habitude
oui.
de voir une équipe de France légèrement défensive.
Oui,
On agit beaucoup en contre. Les équipes maintenant sont habituées à notre style de jeu. Mais ça a porté ses fruits. Alors pas d'inquiétude pour
ouais,
le moment.
On était confiants, t'es comme ses supporters. Voilà, il y a pas de raison. C'est vrai qu'on a quand même des joueurs de talent, mais bon, problème, c'est on a un problème de carence offensive depuis quelques matchs, depuis le match amical contre le Canada. Tiens.
Il suffira d'un déclic, d'un match référence, et ouais. Puis après, voilà, tout comme on a pu l'évoquer ou comme ça a été évoqué dans l'interview précédente, beaucoup d'équipes sont pas
oui,
top encore dans ce début de...
ouais.
Exactement, voilà.
Julien ?
Ouais, comme il vient de le dire, ouais. On est habitué, en fait, on s'attend... Enfin, moi, personnellement, je m'attendais à ça de la part
ouais,
de Deschamps.
Ouais,
donc,
ouais, ouais.
Une équipe costaud, solide, qui n'a pas forcément moins d'occasions que sur les dernières compétitions. Hein. Ils n'ont peut-être pas marqué de but, à part contre son camp.
Mais il est concrétisé aussi.
Il y a quelques années, on avait gagné contre le Pérou 1-0 sans avoir
d'occasion réelle. Oui, c'est vraiment un début de Coupe du Monde, ouais.
Pour moi, c'est sur la même lignée que ce qu'on a pu faire avant. Après, évidemment, il faudrait que certains joueurs se mettent à niveau.
Ouais.
On voit Griezmann qui a raté quelques occasions oui. sur ce match-là.
On va en parler, ouais. Il semble quand même moins saignant, Griezmann.
Oui, mais il se crée les occasions. Et même sur le premier match, le but contre son camp, il faut regarder aussi l'appel qu'il fait, parce que oui. je pense qu'il est déterminant sur la passe de Mbappé.
Oui.
Et bon, il brille peut-être un peu moins, mais je ne me fais pas de soucis sur le reste de la compétition qu'il peut faire.
Ouais. Bon, Darius, au commentaire, tu t'es un petit peu ennuyé quand même, comme nous.
On s'est légèrement ennuyé. Après, c'est vrai que
chapeau quand même pour commenter.
L'équipe de France en phase de poule dans les grands tournois, c'est jamais très glorieux. Après, c'est vrai que c'est au niveau des matchs à élimination directe que ça se décante un petit peu. On sait que voilà, par exemple, on pense à la Coupe du Monde de 2018, le match en huitième de finale, c'était quand même assez exceptionnel.
Ah oui, c'était match référence d'ailleurs.
Ouais, voilà. Et donc, je pense que une fois qu'on s'est sorti de cette phase de poule, ça risque de se débloquer un petit peu. Voilà, Deschamps, il a ce style assez pragmatique avec voilà, un minimum de risque. Il est très conservateur dans sa tactique. Donc, je pense que ça.
Ouais, mais
là,
cette année, on bat tous les records parce que, comme disait Julien, bon, on se crée peut-être pas beaucoup d'occasions sur les matchs, mais on concrétisait. Là, quand même.
Bah, on se crée pas forcément beaucoup d'occasions, oui. mais on se crée des occasions. Oui, et c'est vrai qu'il y a un problème voilà, dans, oui, dans la finition.
Depuis quelques matchs, quoi.
Ouais. Enfin, depuis quelques matchs, oui. Mais là, si on prend juste l'Euro, là, le match contre l'Autriche, Mbappé avait quand même deux occasions très franches voilà, en face à face avec le gardien qui rate.
Une qu'il a complètement vendangé.
Ouais. Ouais, complètement. Et c'est vraiment pas à son habitude. On sait que voilà, c'est un tueur devant les cages. Là, c'était voilà, assez problématique. Ouais. Et après, il y a aussi les deux face à face de Griezmann où il est en bout de course. Il essaye de mettre de la pointe du pied, mais finalement, il fait juste. Enfin, il fait que tomber et c'est assez dommage voilà, de se dire qu'on a des occasions et on pourrait finir avec des plus gros scores, mais bon, ça s'arrête à 1-0-0-0.
Alexandre ?
Moi, je vous trouve un peu lisse quand même parce que ça fait quand même maintenant Deschamps, ça fait 11 ans qu'il est là. Au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes performances. Même si ça gagne, j'étais plus content quand ça gagne, c'est évident. Mais en fait, on se fait chier quoi devant les
ça,
devant
ça
les matchs.
Ça c'est vrai devant les matchs, mais bon après après les victoires ça enlève tout. Hein.
Bah oui et non parce qu'au bout d'un moment dans tous les matchs en fait c'est toujours la même chose et là je trouve que particulièrement cette compétition là on a un gros manque de talent et surtout offensif comme tu l'as dit Philippe et enfin l'attaque elle fait un peu peur quand même. Dembélé, ça fait 11 matchs je crois qu'il a pas marqué en équipe de France ou quelque chose comme ça. Thuram, il joue avec des bottines et Mbappé, bon là il est blessé. Donc moi en fait devant les matchs de l'équipe de France, je j'ai aucun plaisir, vraiment zéro plaisir. Et pour moi, faut pas se laisser berner par l'enjeu, enfin je veux dire on a le droit d'avoir des exigences en tant que supporter. Nous, on est des connaisseurs de foot, on n'est pas le grand public.
Ouais, mais tu sais qu'en 98 c'était pas terrible devant la télé, puis on a tous retenu que il y avait des millions de gens dans la rue.
Il y
avait
quand même plus de talent à mon sens.
Il y avait du talent,
quand ton meilleur joueur c'est
N'Golo
Kanté, au bout d'un moment faut se poser les bonnes questions.
Oui, ça c'est vrai. Bon.
Mais bon.
Mm-hmm. Tiens, la spécialiste du foot, Vanessa.
Ah oui, moi une grande spécialiste du foot, ouais. Incroyable. Ouais. J'ai un petit peu vu la fin du match Suisse-Allemagne. Au moment où je l'ai regardé, il y avait 1-0, et puis J'ai très brièvement vu le match de l'équipe de France, quelques bribes. Hein. Ben voilà, en effet, c'est vrai que c'était. On attendait qu'il se passe quelque chose. Voilà, mon point de vue de néophyte, Philippe.
Bon, les équipes dans ce groupe, l'Autriche, les Pays-Bas, on va rappeler que les Pays-Bas ont battu la Pologne 2-1, que l'Autriche a battu aussi la Pologne 3-1. Bon, demain, on va affronter l'équipe la plus faible du tournoi.
Oui, la plus faible. Peut-être pas du tournoi, mais en tout cas la plus faible du groupe.
Oui.
Il n'y a pas forcément
le groupe, j'allais dire. Oui.
On est assez tranquille, je pense, par rapport à ce match-là. Même si on a 4 points aujourd'hui, je pense qu'on peut faire jouer d'autres joueurs et permettre un peu des Giroud, des Barcola, d'avoir un peu de temps de jeu, se mettre en confiance aussi. Et honnêtement, on peut mettre n'importe quelle équipe. Je pense qu'on a la qualité pour gagner ce match. Il n'y a pas d'inquiétude.
Oui, on devrait.
Oui, bien sûr. Là, il serait opportun de pouvoir changer l'équipe. Et puis, voilà, comme on a pu le dire avant, voir peut-être un autre système de jeu et voir les remplaçants jouer. Ouais. Notamment.
En tout cas, le Pays-Bas affronte le 0-0. C'est le seul 0-0 de la compétition pour l'instant. Hein. Mais est-ce que c'est facile de... On sait qu'en foot, c'est toujours compliqué de jouer derrière des équipes qui jouent derrière, quoi. On l'a vu, l'Autriche, battu 1-0. Ils ont joué tout le match derrière, ils ont passé que leur temps, en plus, à donner des coups.
L'Autriche ?
Oui.
Non, je suis pas forcément
d'accord.
Attends,
il y a eu cette faute quand même assez importante.
Ils
ont joué la
semelle,
on était au stade. Il y en a un qui pousse Griezmann dans les...
Non, mais je te dis pas qu'ils ont pas fait de faute.
Ils ont quand même... Ça a été un petit peu limite parfois.
Non, je te dis pas qu'ils ont pas fait de faute, mais je trouvais que c'était pas un bloc bas attentiste et compact. Ils avaient des... Ils sont allés chercher. Ils avaient des bons schémas de pressing.
Mais c'est pas une équipe qui est quand même portée sur l'offensive une seule occasion, quoi.
Bah, c'est pas une équipe qui est portée sur l'offensive contre l'équipe de France, qui a peut-être une des meilleures défenses du tournoi, mais je trouvais qu'ils ont quand même mis en difficulté les Bleus de par leur pressing et tout, et que peut-être dans les phases de transition, ils auraient pu être plus mordants, mais on les attendait peut-être à un plus haut niveau à l'équipe d'Autriche, parce qu'on sait que c'est une équipe qui a beaucoup de qualité et beaucoup de...
Puis elle était restée sur une bonne série, je crois.
Ouais, ils étaient sur une très bonne série, je crois que c'était une défaite lors de leur 16 derniers matchs avant l'équipe de France. Je trouvais que c'était pas une équipe attentiste.
C'est pas une équipe qui est facile à jouer.
Non, c'est pas une équipe qui est facile à jouer. Et voilà,
parce qu'il y a toujours un petit peu un impact physique, athlétique, tout ça.
Totalement, et on est quand même allé chercher le résultat. Donc, c'est pas de quoi être fier, mais c'est pas de quoi voilà, être pessimiste non plus.
Non. Alors, Pays-Bas, Autriche et France-Pologne, donc c'est demain, je l'ai dit, 25 juin, donc à 18h. Donc les Pays-Bas qui devancent l'équipe de France pour l'instant. Alors, même goulavrage, je crois que c'est juste au nombre de buts marqués que les Pays-Bas sont devant. L'Autriche est troisième avec 3 points et la Pologne 4 points. On va donc, la Pologne 0 points, pardon, quatrième. On va enchaîner maintenant sur les autres groupes. L'Allemagne qui avait fait une grosse impression. Donc, elle a fini pour mettre la poule, elle a battu l'Écosse 5-1, elle a battu la Hongrie 2-0, et hier, elle a quand même partagé les points contre la Suisse 1-1. C'est la Suisse, donc l'Allemagne qui s'impose avec 7 points, c'est la Suisse qui est deuxième 5 points, les Suisses qui ont battu quand même la Hongrie 3-1, et qui avaient fait un nul contre l'Écosse 1 partout. Troisième, donc, Hongrie 3 points, la Hongrie qui a battu l'Écosse 1-0, et quatrième, Écosse 1 point. Bon, c'était logique, Allemagne-Suisse, on pouvait s'attendre à ce que ces deux équipes sortent du groupe, quoi. Hein, l'Allemagne 7 points, la Suisse 5 points, troisième, Hongrie 3 points et quatrième l'Écosse 1 point.
Oui, oui, ça reste logique. Hein. Oui. C'est, la logique est respectée. Même si on a pu voir l'Allemagne en difficulté hier soir.
Alors justement, c'est une question que j'allais dire. Ouais. On les a vus bien les deux premiers matchs. Hier, un petit peu moins bien quand même, hein, physiquement.
Oui, exactement. Où ils égalisent vraiment dans le temps additionnel. Ouais. Mais voilà, on a pu les voir contre une équipe plus costaud, plus compact, qui attaquait surtout. Donc ils ont été mis un peu plus en danger
défensivement. C'est pareil, la Suisse, c'est pas facile à jouer non plus. Ils sont toujours compacts, toujours groupés, toujours. Ouais. Ils lâchent rien, c'est pas une équipe facile à jouer, on en sait quelque chose. Hein.
Voilà, ouais. N'oublions pas qu'ils nous ont éliminés au précédent Euro.
Ouais.
Mais ouais. C'était un match intéressant pour aussi jauger l'Allemagne.
Oui, oui, oui. Bon, Julien,
c'est le troisième match de la compétition, ils n'ont fait aucun changement. Ouais. On est en fin de saison, d'une grosse saison. Je pense que les jeunes comme Wirtz, Moussiala ont beaucoup joué cette année. Et Wirtz a eu des petites blessures sur la fin de saison. C'est pas évident d'enchaîner comme ça les trois matchs. Moi, j'aurais espéré quelques changements de leur part, mais manque d'automatisme aussi. Non, ils n'ont pas eu le temps de préparer la compétition réellement, puisque changement de coach, changement dans l'équipe. Il y a pas mal de joueurs qui ont été.
Pourtant, ils ont pris tous les matchs amicaux au sérieux, là, parce que ils veulent quand même faire oublier leur dernière confrontation européenne et mondiale, qui n'était pas très brillante, c'est moins qu'on puisse dire.
Oui, mais tous les matchs, c'est finalement pas tant de matchs que ça, et.
Ils l'ont battu deux fois cette année en match amical.
Oui. Mais à un moment, c'était aussi. On les a joués à un moment où ils avaient besoin aussi de retrouver la confiance et de se donner les moyens de gagner des matchs. Donc, ils se donnaient un peu plus que nous, j'imagine, qui avions moins de pression, moins d'enjeux aussi. Ils préparaient leur Euro et ils avaient des résultats catastrophiques. Donc, ils se sont repris en main, ça a mis le temps que ça a mis. Mais sur le papier, c'est vrai qu'ils ont une très grosse équipe. Après, quand t'as pas l'habitude de jouer ensemble, quand certains joueurs, parfois dans les clubs, je fais la même comparaison avec l'Angleterre par exemple, quand tu joues avec un Guardiola, un Klopp ou certains types de coach, t'as une position très précise, tu sais exactement ce que tu dois faire à tel moment et tel moment. Quand t'arrives en équipe nationale, si on te demande d'autres choses, forcément t'as pas la même aisance et tu joues pas forcément au même poste non plus. Donc il y a des adaptations à avoir. Après, c'est des grands joueurs, ils doivent être en capacité de le faire. Mais malgré tout, bon, je suis pas inquiet, mais il reste des interrogations sur cette équipe.
Oui, Darius, ce groupe Allemagne-Suisse qui sort, c'était logique. Hein.
Oui, c'était logique. Après, c'est vrai qu'on en attendait un petit peu plus de la part de la Hongrie.
Ouais.
Ils font une très bonne préparation, même si la préparation, ça ne veut pas forcément tout dire. Ils ont été assez décevants sur les matchs où on a pu les voir. Notamment le match contre l'Allemagne, franchement ils avaient vraiment les capacités à faire trembler un peu cette équipe d'Allemagne. On les a vus moi je trouve sur les ailes, les Allemands ils ont un petit problème, que ce soit dans l'animation offensive mais surtout défensive, ils se font prendre de vitesse relativement facilement et ils ont eu des bonnes occasions la Hongrie, mais voilà, ils manquaient de mordant, ils manquaient d'envie, j'ai trouvé, sur leur confrontation avec les Allemands. Et là hier, les Hongrois contre l'Écosse, c'était c'était assez pauvre, on s'est beaucoup ennuyé devant ce match et gagner
juste sur la fin, vraiment à l'extrême limite. Hein.
Littéralement à la 90e plus 10, c'est un peu décevant, surtout que cette équipe d'Écosse était assez faible dans ce tournoi. Ouais. Donc sortie de groupe logique, mais peut-être un peu décevant.
Alexandre.
Ouais, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est que la logique a été respectée de A à Z, de l'Allemagne qui a bien commencé. Franchement, le premier match de l'Allemagne était très plaisant à voir, je trouve. Et je voulais faire une mention spéciale aussi à Füllkrug, qui fait des très bonnes rentrées. Qui
oui, c'est le joker, il rentre vraiment toujours déterminant. Hein.
Franchement, toujours très décisif. Après, moi, ce que ce que j'ai dit, je sais pas si je l'ai dit au bout du foot, mais en tout cas ce que je disais hors antenne, c'est que pour moi l'Allemagne, je les vois pas aller très très loin ou passer le cap des demi-finales ou même des quarts, parce que je sais pas, je trouve cette génération, même si c'est quand même des grands joueurs, des gros joueurs et de la qualité, je trouve cette génération un peu en dessous comparé à celle d'avant. Et je les vois pas faire une très grosse compétition.
Oui, après, quand tu dis la génération d'avant, tu penses à quelle génération
déjà? Non, ouais, c'est la fameuse génération de 2014, 2016, et après 2016, c'est compliqué.
Mmh. C'est dur de les comparer à 2014, non, bien sûr. C'est peut-être une des plus grandes équipes de l'histoire du foot international.
Oui, non, mais en tout cas, moi, l'Allemagne, je mettrais pas une pièce sur l'Allemagne, ça c'est sûr.
Oui, quoi que t'as des équipes qu'on n'attendait pas forcément, comme l'Italie, qui avait pas une grosse des joueurs de talent, enfin des grands noms, et qui ont été champions d'Europe il y a 3 ans quand même.
Oui, après, bon, c'est toujours, quand t'as des matchs chez toi, c'est toujours différent, c'est sûr, mais bon, après, c'est une question de sensibilité. Moi, je vois mal l'Allemagne aller loin dans la compétition.
Très bien. Allez, on va marquer une petite pause musicale. Tiens, la deuxième. Tiens, celle où tu vas en boîte de nuit. Be Devotion avec Sheila. On y va. Bon, messieurs, comment vous trouvez, d'une façon générale, le début de cet Euro? Je l'ai dit, un seul 0-0. Hein, les matchs sont plutôt sympas, on marque beaucoup de buts. Loan?
Pour le moment, le début de l'euro est assez poussif, hein, je trouve, par les grandes nations et puis même les petites nations comme la Hongrie. Moi, j'attendais beaucoup de la Hongrie, mine de rien, comme on en a parlé précédemment. Mais le jeu développé n'est pas dans mes attentes, je pourrais vous dire.
C'est-à-dire que tu préfères un football offensif, tu trouves que c'est trop défensif, non ?
Comme le grand public, comme la plupart des gens, on aimerait avoir plus de buts. J'en attendais pas mal de l'Espagne,
parce
notamment.
On avait déjà des certains euros auparavant où il y avait déjà 3 ou 4 0-0 sur la première semaine de compétition. Hein. Ouais. Là, un seul 0-0 quand même. Hein.
Ouais, c'est pas faux, mais on peut éventuellement aussi parler des buts marqués contre son camp, qui prouvent peut-être qu'on défend beaucoup.
Oui, mais c'est qu'on domine aussi, Jean-Marc.
C'est qu'on domine aussi.
Oui.
C'est
vrai. Après, il y a quand même beaucoup de buts extraordinaires, je trouve. On a vu des buts qui pourraient gagner dans des éditions précédentes le but du tournoi.
Pour moi, c'est celui Stankiou, le Roumain, je trouve.
Ah là là, extraordinaire.
Il frappe croisé et que ça vient de là. Lucarne opposé, je trouve ça incroyable.
La reprise de volée là, du joueur turc là, pour le premier but contre la Géorgie.
Aussi,
là, qui sort une pavarde exceptionnelle. Enfin, même si dans le jeu, peut-être que voilà, c'est vrai que je suis un peu d'accord.
Ardagulaire aussi, le but.
Extraordinaire. Il y a quand même beaucoup de buts et beaucoup de mouvements qui sont hyper intéressants. Par exemple, moi, le mouvement de la Slovaquie contre la Belgique, là, où ça se finit sur une reprise de volée qui est avec un très bel arrêt de Cassius. Oui. Des équipes qui, on les attendait pas forcément dans du beau jeu ou dans des grands résultats, mais qui, mine de rien, sortent de belles performances et de temps en temps des résultats. La Slovaquie contre la Belgique, ça fait plaisir de les voir à ce niveau battre une grande nation avec la manière aussi.
Mmh. Alexandre,
oui,
toi c'est le jeu, c'est le spectacle.
Moi ouais, j'aime le jeu, mais c'est pour ça qu'en fait
c'est le côté latin, ça.
C'est le côté latin, c'est ça. Bah oui, c'est pour ça que j'ai été plus touché par l'Espagne dans ce début d'Euro, parce qu'en
on
fait
va en parler,
pour moi il y a juste après, parce qu'il joue ce soir, il y a des séquences de jeu techniquement parlant, même les Croates et comme t'as dit la Slovaquie aussi, qui sont plaisantes. Mais je veux dire, l'Espagne a des séquences de jeu que tu retrouves pas ailleurs, techniquement dans les petits espaces, ça attire l'adversaire, ça ressort de l'autre côté. En général, pour moi, je vois pas d'autres équipes qui sont capables de faire ça, et encore moins la France. C'est pour ça que j'ai été agréablement surpris par le début de compétition de l'Espagne. Et désagréablement surpris par, comme t'as dit Loan, les grandes nations comme la Belgique, comme l'Angleterre et comme la France. Voilà.
Julien,
pour rebondir sur l'Espagne, l'Espagne a tendance à former des joueurs d'une certaine manière et ça se ressent dans tous les clubs espagnols, enfin en tout cas la plupart des clubs espagnols. Donc ça c'est un peu logique aussi que ça rejaillisse en équipe nationale, qu'ils aient une facilité en tout cas à produire un jeu qu'ils ont l'habitude de produire en club. Après, sur le début de compétition, je pense que les grosses équipes ont besoin de se rassurer d'abord. Donc être costaud et marquer s'ils ont l'occasion, mais d'abord être costaud. À l'inverse, les plus petites équipes vont jouer en transition et attendre l'erreur de la grosse équipe. Donc c'est normal que ça soit un peu fermé, entre guillemets. Chacun joue sa partition tout à fait logiquement. Et aujourd'hui, aucune grosse nation n'a énormément de certitudes. On parlait de l'Espagne, c'est celle qui effectivement a le plus beau jeu actuellement.
Oui.
Mais en réalité, ils n'ont pas fait des grosses compétitions sur les dernières. Donc, il n'y a pas de certitude non plus que ça continue à gagner contre d'autres équipes plus en forme. Parce que même s'ils ont joué l'Italie et la Croatie, qui sont des plutôt gros morceaux, c'est pas des équipes qui arrivent en forme sur cette compétition-là. Donc,
moi, je te trouve assez sévère, je fais un petit aparté, parce que, encore une fois, tu vois, l'Espagne, à chaque fois, ils se font sortir au tir au but. Tout le temps au tir au but, il n'y a personne qui n'arrive à les sortir dans le jeu. Tout le temps, c'est bloc bas, ultra bas, ils sont obligés forcément de conserver le ballon, et ils se font sortir au tir au but. C'est pour ça que je trouve ça assez sévère.
Ça compte.
Oui,
si on n'arrive pas à marquer
contre
un bloc bas et qu'on se fait éliminer au tir au but,
c'est évident qu'on retient justement les défaites. C'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on est des connaisseurs, justement, comme je disais tout à l'heure, et on doit regarder les matchs. Et l'Espagne, à chaque fois, produit un jeu qui est un des meilleurs au monde. Oui, et je vois aucune nation qui joue mieux. Enfin, je veux dire.
Après leur période phare où ils remportent Euro, Coupe du Monde, etc. Ils ont surutilisé ce jeu de possession qui est devenu stérile dans beaucoup de cas.
Parce que ça allait moins
et
vite.
Et malheureusement, ils avaient le ballon 60-70% du temps, mais sans créer énormément d'occasions. Donc oui, ça peut être intéressant à voir. Oui, il y a un style de jeu particulier qui peut plaire, mais en réalité, ça fait pas de temps un vainqueur. Et encore une fois, on peut revenir sur le débat de l'équipe de France. Il faut savoir ce qu'on veut, le jeu ou la gagne, parfois les deux, mais il n'y a pas de garantie quand on a le jeu.
En tout cas, l'Espagne, on l'a dit, hein, ils sont en tête de leur groupe avec 6 points. Ils jouent effectivement donc, ce soir contre l'Albanie. Dans le même temps, il y aura Croatie, Italie. L'Espagne donc, qui a battu, on l'a dit, la Croatie 3-0, qui a battu l'Italie 1-0. On va rappeler que l'Italie a difficilement battu l'Albanie 2-1 et nul aussi entre la Croatie et l'Albanie 2-2. Donc l'Espagne 6 points, l'Italie 2e 3 points, 3e Albanie 1 point et 4e Croatie 1 point. Attention à l'Italie-Croatie ce soir. Hein.
Oui, oui.
Ouais, là, il y a peut-être.
Il va valoir cher ce match, oui, pour la qualification, avec une Croatie qui est un petit peu en dedans depuis ce début d'Euro. Peut-être parce que sa génération commence à être vieillissante. Peut-être.
Oui.
On verra le résultat de ce soir. Mais j'aimerais aussi parler de l'Albanie, moi, personnellement. Oui, parce que l'Albanie a fait un match cohérent, plutôt correct contre l'Italie. Et pourquoi pas, l'Espagne est déjà qualifiée, pourquoi pas ce soir une petite surprise comme la Slovaquie a pu faire lors de la première journée.
Ah bon, tu penses que c'est possible, une Allemagne peut-être, une Espagne un peu démobilisée
Je pense qu'ils vont faire tourner.
Il a fait tourner, c'est le 11 est sorti, il a fait tourner déjà.
Ouais, c'est peut-être pour ça.
Et puis défensivement, bon, l'Espagne, certes ça a souvent le ballon, c'est un beau jeu, mais défensivement ils sont parfois fébriles. Sait-on jamais. Voilà, il y a des bons joueurs hein, devant comme Bejrami à l'Albanie, donc c'est pas mal.
Moi, je pense qu'ils peuvent se faire prendre par une équipe qui est compacte, organisée, disciplinée et qui a un bon jeu de transition. Dès que ça défend sévère, qui n'est pas c'est pas le cas de l'Italie ou de la Croatie, sait qu'ils peuvent être positionnés assez haut sur le terrain. Ça peut leur causer des problèmes et avec une équipe rapide en transition. Ce qui a peu pu montrer l'Albanie dans le match contre la Croatie. Moi, je pense que ça peut leur causer des problèmes. Et s'il fait tourner en plus, ça peut être un match très différent. Donc, je suis d'accord, ils peuvent se faire surprendre.
Italie-Croatie, vas-y.
Non, j'allais dire, à noter que la défense espagnole, c'est deux Français qui sont en défense.
Oui, en plus, oui.
Qui
n'étaient
pas dans les petits papiers de Deschamps. Il faut se poser la question aussi pourquoi. C'est certainement qu'ils sont moins solides que les joueurs qu'il a pris. Peut-être des meilleurs joueurs de football, techniquement. Ouais. Mais pas forcément. Enfin, en tout cas, c'est son regard à lui. Donc, j'imagine qu'il y a une raison à ça. Ça reste de très bons joueurs aujourd'hui, mais est-ce qu'ils ont prouvé dans les plus grands clubs européens? Non, pas encore. Ouais.
Italie-Croatie, c'est attention, malheur au vaincu. Hein. S'il y a un vaincu.
Ouais, comme on a pu le dire, il va coûter cher ce match.
Allez, groupe C là. Alors là, il n'y a que des matchs pratiquement. Slovénie-Danemark, 1 partout. Slovénie-Serbie, 1 partout. Danemark-Angleterre, 1 partout. Il n'y a que l'Angleterre qui a battu la Serbie 1-0. Bon, pour l'instant, Angleterre 4. Deuxième, le Danemark 0. Troisième, la Slovénie. Deuxième, le Danemark 2 points. Troisième, la Slovénie 2 points. Et quatrième, la Serbie 1 point. Demain, donc. C'est demain à 21h. Donc, Angleterre-Slovénie et Danemark-Serbie. Bon, c'est vrai que l'Angleterre, début poussif. Hein.
L'Angleterre, début poussif. Peut-être à l'inverse de ses précédentes compétitions où ils commençaient fort et puis après, malheureusement pour eux, soit ils croisaient la route de l'équipe de France ou d'autres équipes. Voilà, sait-on jamais. Ils ont des joueurs de qualité. L'alchimie a du mal à prendre. Mais sur un numéro, notamment de Bellingham ou même de Kane. Sait-on jamais, voilà. L'Angleterre reste très, 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 très solide.
Oui. Bon, après, pour la deuxième place, Danemark, Slovénie, Serbie.
Bon, je mettrai une pièce sur le Danemark.
Oui, quand même. Pareil. Hein.
Oui, sur le Danemark aussi. Après, bon, c'est des matchs serrés. Donc,
oui, c'est vrai que c'est serré. Réalité, hein. On a vu 3 matchs un partout.
Tout est possible. Ouais. Si vous voulez parier, moi, je vous dis de mettre un partout sur la plupart des matchs.
Oui, c'est bien. T'as raison. Pourquoi pas. Hein.
Très honnêtement, pourquoi pas, hein. C'est le résultat qui retombe le plus.
Enfin, Angleterre, Slovénie, un partout, ce serait une déception quand même pour les Anglais. Hein. Ce ne serait pas une réussite.
Oui. Après, l'Angleterre, ils ont rarement très bien commencé leur compétition.
Oui.
Parce que même s'ils ont pu faire des compétitions, ils gagnaient peut-être 2 ou 3-0 sur le premier match, ils en gagnent jamais 2 d'affilée, donc ça pose question. Ils ont une pression qui est différente de la nôtre aussi, hein, médiatiquement. Il y a beaucoup plus de journaux,
les
papiers,
tabloïds d'anglais,
et radio, etc. Ils ont dit quotidien quand on en a un, il faut se dire aussi. donc la façon dont sont perçues les choses là-bas, il y a une attente monstre, ça rajoute aussi une pression. Ça fait 60 ans qu'ils ont rien gagné, donc ils ont des super joueurs. À chaque compétition, on se dit ils ont une super équipe, mais en réalité, ça joue pas bien ensemble. Donc, est-ce que c'est aussi la façon de jouer en Angleterre qui leur permet pas de construire quelque chose avec
le club
qui ont
le sélectionneur aussi.
Oui.
Le sélectionneur ouais. aussi, on pourra en parler. Aussi,
c'est ouais. vrai. Bah, il s'inspire à 100% de Deschamps. Il l'a dit hein, même plusieurs fois. Dans
sauf
la
qu'il
n'y
arrive pas.
Oui. Il y arrive très bien. Hein, si on voit son jeu, il fait.
Non, mais je veux dire, ça gagne pas.
Non, ça gagne pas. Ça gagne pas ah comme ouais, Deschamps, mais on se fait chier ouais. comme, ouais. comme devant, ah ouais. Devant les matchs de l'équipe de France.
J'avais une petite question. Qu'est-ce que vous pensez du traitement médiatique en Angleterre, justement? Parce que c'est quand même un pays qui est reconnu, même au-delà du foot, hein, pour avoir des tabloïds assez scandaleux. Et quand ça touche le sport, est-ce que vous, comment vous le voyez?
Je pense que c'est toujours impactant.
Oui, bien sûr.
Énormément. Et même s'ils ont déjà une forte pression au club, etc., c'est complètement différent quand c'est tout un pays qui est regardant sur les performances. Ça a un impact. Après, évidemment, ils ont la capacité d'être plus performants que ça. On parlait du coach. C'est vrai que c'est pas un coach qui fait rêver. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Quand tu joues en club avec Guardiola ou Arteta, et que tu arrives devant Southgate qui a pas forcément du tout les mêmes principes de jeu, c'est pas évident. Foden qui joue à gauche alors qu'il joue à droite ou dans l'axe habituellement. T'as des super joueurs. Après, faut savoir les utiliser et que la mayonnaise prenne.
Ouais,
alors en fait, je pense que lui, il part du principe qu'il préfère avoir cette stabilité défensive et donc dans son jeu être très conservateur pour pas se faire prendre en transition. Mais il dépend à 100% de la brillance individuelle de ses joueurs. Et c'est un mauvais pari, je trouve, parce qu'il a un effectif qui a une qualité extraordinaire. Et il pourrait totalement, comme l'Espagne, en faire profiter ses joueurs, essayer de développer un style de jeu agressif dans l'offensif, mais là c'est dommage, il met tout derrière et prie pour que quelques joueurs fassent la différence.
Mais je trouve qu'il manque d'idées aussi, parce qu'à un moment donné il a créé un groupe, dans le groupe il n'y a qu'un arrière gauche de métier, beaucoup d'arrière droit, bon c'est vrai qu'il y en a beaucoup de performants.
Un arrière gauche de métier qui passe la deuxième moitié de saison blessé en plus.
Exactement, qui n'a pas joué depuis février quasiment. Alors que t'as des Chilwell, t'as d'autres joueurs qui pourraient très bien prendre le relais, et tu mets un Arnold au milieu. C'est pas quelque chose qui est habituel ou naturel en réalité. C'est un super joueur qui a la capacité de le faire.
Ça pourrait marcher.
Ça pourrait marcher, mais en réalité, tu testes pas ça en compétition. Et puis normalement, l'Angleterre doit avoir des joueurs en capacité de prendre le relais. Pas mettre Alexander Arnold à ce poste-là.
Allez, on va finir dans les deux derniers groupes qui nous intéressent, hein, parce que ça sera nos futurs adversaires. Le groupe E, alors là, c'est un petit peu la bouteille à l'encre. Hein. La Roumanie qui bat l'Ukraine 3-0, la Slovaquie qui va battre la Belgique 1-0, hein, qui crée la surprise, victoire ensuite de l'Ukraine devant la Slovaquie 2-1, et de la Belgique qui bat la Roumanie 2-0. C'est-à-dire que toutes les équipes sont inquiétées. Elles ont toutes 3 points, hein, même si au goal average, c'est la Roumanie qui est en tête, devant la Belgique, 3e la Slovaquie, et 4e l'Ukraine. Il y a Slovaquie, Roumanie et Ukraine, Belgique, donc le 26 juin à 18h. Alors messieurs, qui va sortir? La Belgique quand même.
Franchement...
Ouais. Le groupe, non,
enfin,
non,
oui, non, non. Oui, par défaut, on dirait la Belgique, oui. Mais force est de constater que ouais.
Là aussi,
la Belgique...
Grosse déception.
Grosse déception, génération vieillissante, et finalement, quand on voit l'effectif de la Belgique, c'est pas non plus incroyable. Après, oui, à part la Belgique, j'ai envie de dire la Slovaquie, ouais, je mettrais une pièce sur la Slovaquie. Parce que l'Ukraine, on l'a vu notamment lors du premier match qui avait été décevante. Ils ont su renverser la vapeur à leur deuxième match. Mais donc l'Ukraine, je les vois plutôt sortir et la Roumanie.
Ils ont l'adversaire le plus compliqué pour la dernière.
Oui, en plus.
Ouais, Ukraine-Belgique, ouais. Sinon.
Ouais, Belgique, formation vieillissante. On le voit, la défense. Quand t'as un joueur qui joue au Stade de Reims en défense centrale titulaire, c'est que t'es pas au top niveau au mondial aujourd'hui, faut se dire les choses. Hein. On regarde l'équipe de France, on dit qu'on a une génération moins bonne que certaines années. Aujourd'hui, tous les joueurs sont dans les plus grands clubs mondiaux. Donc la défense reste la problématique principale. Et j'ai envie de dire, Lukaku, sur certaines situations, il devient agaçant en fait, parce qu'on dirait qu'il est né hors jeu.
Il est
tout le temps.
Ouais.
C'est un joueur qui peut avoir un impact hyper important sur l'équipe. C'est vrai qu'il a manqué ces dernières années d'un autre joueur qui aurait pu prendre sa place. Aujourd'hui, on a Openda qui marque depuis 2 ans quand même beaucoup de buts. Alors ça oblige à changer aussi la façon de jouer, mais on l'a vu, quand il est rentré, Openda, il a apporté tout de suite. Maintenant, l'équipe manque de joueurs de qualité, je pense, tout simplement.
Je trouve que ça manque un peu de cohérence. Ouais. Hein. Lukaku, c'est pas forcément quelqu'un qui va pouvoir apporter de la vitesse, au contraire, plus un point d'appui. Mais on l'aligne aux côtés de joueurs qui peuvent justement apporter beaucoup de vitesse. Jérémy Doku, on le sent un peu. Moi, je l'ai trouvé un peu esselé. Il arrive à faire des grosses différences sur son côté. Et il n'y a personne qui peut vraiment lui donner un coup de pouce pour voilà, essayer de créer des vraies différences. Donc ouais, je trouve que cette équipe, elle manque de cohérence. On a un milieu de terrain qui n'est pas un milieu de terrain. Enfin, il manque énormément de présence là dans ces lignes, voilà, au milieu. Donc ouais, ça manque de cohérence, je trouve.
Alors, est-ce que notre ami Stéphane Dezenclos est au téléphone, le quotidien du sport ? Ça va, Stéphane ? Oui, alors toi, bon, je voudrais simplement que tu puisses nous dire en quelques minutes, hein, un petit peu tes coups de cœur, tes coups de gueule sur cette première partie de compétition. Quelles sont les équipes qui t'ont, j'allais dire, séduit, celles qui t'ont déçu, et puis comment tu vois la suite des choses ?
C'est
ça qui est intéressant.
Dans les coups de cœur, je pense que si vous en avez parlé, c'est un peu comme tout le monde, N'Golo Kanté, c'est un Français, mais c'est indiscutablement, je crois, le coup de cœur de l'Europe entière. Hein. Il reçoit des éloges de tout le monde, hein, tous les correspondants. De tous les pays. Donc c'est N'Golo Kanté, la déception, l'équipe qui m'a emballé le plus, c'est l'Espagne, bien sûr.
On est d'accord tous autour de la table. Ouais.
Et puis avec dans les coups de cœur l'ailier gauche Nico Williams là qui est tout à fait exceptionnel. On a beaucoup parlé des jeunes Barcelonais, Yamal, Pedri avant la compétition. Alors c'est pas qu'ils sont pas bons, hein, ils sont assez bons aussi, hein. Mais Nico Williams il crève l'écran. Donc très intéressant. Maintenant dans les grosses déceptions, il y a surtout la Croatie quoi qui a quand même pas mal de chances de passer à la trappe ce soir. On va voir, mais je pense que ça en foot tout va vite, hein, donc on va voir ce qui va se passer. Ça se trouve ils vont mettre une correction à l'Italie. Cette équipe d'Allemagne, j'attends de voir, mais il y a dans les coups de cœur, je pourrais citer aussi Füllkrug, par exemple, qui est un joueur exceptionnel, qui a des stats incroyables avec la Mannschaft, hein, qui est encore rentré hier un peu tardivement, je pense, mais bon, quand aussi, c'est incroyable que ce joueur il râle pas un peu plus pour avoir plus de temps de jeu, quoi, qui est rentré hier et qui sauve, qui envoie l'Allemagne en tête. Donc voilà, maintenant on va voir, ça va monter tranquillement parce qu'il y a des équipes. Moi, je vous entendais là, en attendant, je vous entendais parler de la Belgique. Oui. Moi, c'est.
Toi, c'est ta surprise. Pour toi, tu crois qu'ils vont les, ouais, qu'ils peuvent.
Je sais pas en quoi je crois, mais je trouve que j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a une espèce de hype négative sur cette équipe. J'arrive pas à comprendre parce que. Je trouve que je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a vraiment des très très bons joueurs. Il y a beaucoup de talent dans l'équipe. Il y a Doku, il y a Openda, on en parlait. Il y a De Bruyne quand même. On a vu dans son dernier match là qu'il était capable de faire de très belles choses. Tielemans aussi, même s'il est un peu ancien. Je me rappelle plus son nom exact. L'attaquant là qui est très aussi intéressant. Et puis bon, ils avaient des absences dans le premier match, ils ont dominé le premier match, ils ont été battus par une équipe solide. Il y en a toujours des équipes comme ça qui font des coups dans une grande compétition. Donc je pense qu'on les a vraiment. Je suis d'accord de toutes les petites critiques qu'on donne, ce qui fait qu'ils sont pas dans le top 5. Mais après, juste derrière, je vois pas ce qu'ils ont ils ont pas grand-chose à envier à la Croatie, à l'Italie, au Danemark, à la Suisse, à toutes ces équipes qui sont un peu un cran derrière, et notamment Lukaku, c'est quand même moi je trouve qu'il fait un très bon match. Lukaku, son dernier match là, il fait un très très bon match. Il a un but refusé pour un petit hors-jeu, faut peut-être qu'il marque et qu'il parte. Mais je trouve qu'on est beau très dur avec cette équipe, donc moi j'y crois.
D'accord.
Et puis voilà, déception l'Italie aussi quand même. Bon, c'est vrai qu'on reste assez un match. Hein. Il y a très peu d'équipes qui ont enchaîné deux trois bons matchs. Puis dans les satisfactions, plus particulièrement l'équipe de France. Hein. Moi, je suis plutôt adepte du verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et grosse satisfaction de la solidité défensive quand même de l'équipe de France. Quoi. Voilà.
Et sur le plan du jeu, tu trouves cet euro comment, hein, on a dit un seul 0-0.
Ouais, un seul 0-0. Il y a c'est ce que je disais au début, je pensais au jeu quand je dis que moi, je pense que c'est difficile, c'est un peu difficile de juger. On a eu deux, trois équipes qui ont très, très bien joué. On a vu, par exemple, l'Allemagne, tout le monde était très enthousiasmé. On les a vus en grande difficulté contre la Suisse. Pour l'instant, il y a une équipe, c'est l'Espagne, qui a fait deux matchs. De bons matchs, et encore contre la Croatie, c'était pas non plus une domination à outrance. La France a du mal, mais ne fait pas de bons jeux, n'est pas efficace. L'Angleterre, c'est encore pire, a aussi beaucoup de difficultés. Donc, on va voir. Donc, ça a profité à certaines équipes, comme par exemple la Slovaquie qui a fait l'exploit face à la Belgique. Ça a profité à la Roumanie, qui a fait un très bon match contre l'Ukraine, son premier match, et qui a cartonné. Alors, tout le monde c'était beau et tout, mais bon, après, c'est un peu dur de... On va voir sur la longueur. Sur la longueur, comment ça va se passer. Moi, j'ai dans les déceptions, voilà, il y a des équipes solides, je ne sais pas ce que ça va donner finalement. L'Autriche, très déçu par l'Autriche. La Hongrie, on parlait aussi d'une nouvelle génération, de nouveaux joueurs, d'un beau jeu. Ben voilà, ils se sont plantés à l'Euro. Donc, c'est un peu dur quand même de jauger. Disons que on est parti sur des premiers matchs très sans suspense, avec une domination de certaines équipes. Hein, il y a eu 2-3-0 déjà quand on regarde l'Allemagne, Écosse ou Espagne-Croatie. Et puis maintenant, c'est devenu plus chaud. Ce qui est bien, effectivement, c'est qu'il y a quand même, à part la République tchèque, il y a quand même une envie de jouer de la part de toutes les équipes, quoi.
Très bien. Bah, Stéphane, merci. Tu te prépares pour demain. Hein. On te retrouve demain pour l'avant-match. Hein. Et puis pour le match, et puis pour l'après-match. OK?
OK, pas de soucis.
Allez.
Bonsoir à tout le monde.
À demain. Allez. Merci, Stéphane. Et puis justement, il parlait de la République tchèque. Ça va nous permettre d'aborder le dernier groupe, le groupe F, le groupe du Portugal, hein, où on peut aussi donc rencontrer la Turquie si on termine de premier de nos groupes demain. La Turquie qui a battu la Géorgie 3-1. C'est le Portugal qui est en tête, hein, en ayant battu la République tchèque 2-1 et en ayant écrasé la Turquie 3-0. Donc les Portugais ont déjà assuré leur qualification avec 6 points, devant justement donc la Turquie 3 points. Et puis ensuite, il y a la République tchèque 3e, 1 point. Et 4e, la Géorgie, 1 point. On va rappeler que la Géorgie et la République tchèque ont fait 1-1 aussi, et que la Turquie a battu la Géorgie 3-1. C'est vrai que la République tchèque, c'est très défensif, hein, messieurs. Hein. Double rideau, quand même. Hein. On l'a vu contre le Portugal.
Ouais, bah, ils jouent avec leur force, hein, j'ai envie de dire.
Avec leurs moyens, c'est ça. Ouais.
Sûr, quand tu joues contre le Portugal, qui est un des meilleurs effectifs d'Europe, tu vas pas lâcher les chevaux tout de suite. Donc au final, ils sont passés proches de leur coup en plus. Mm-hmm. Donc voilà, rien à redire spécialement. La Géorgie, pareil, ils jouent avec leur force. Willy Sagnol a fait quand même un très bon boulot depuis qu'il est arrivé. Et voilà, le Portugal en favori devant. Et la Turquie.
Et la Turquie qu'on peut rencontrer. Hein, si on termine premier de notre poule, on rencontre les Turcs.
C'est quand même
deuxième,
un bon tirage,
ouais.
je pense.
Ouais,
si
ouais,
on
oui,
très bon tirage.
Ouais. Et par contre, si on termine deuxième, on joue dans le groupe où c'est là où, justement la bouteille d'encre, Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine. On affrontera le deuxième de notre groupe. Donc ce serait, oui, un petit mot, les Portugais, aussi parmi les équipes à suivre comme l'Espagne. Hein.
Les Portugais, sur leur deuxième match, sont vraiment intéressants. Ils font un match quand même assez abouti contre la Turquie, en jouant.
Oui.
C'est...
Bon, le premier, ça a été un peu plus compliqué, mais il y avait un double rideau.
Moi, je les ai trouvés
plus
intéressants sur le premier match, parce que je trouvais que c'est une affiche très compliquée.
Ah,
voilà, la Tchéquie, ils défendent bien, ils sont très physiques. Pardon, très compliqué, pas avant le match, mais dans le match. Voilà, c'est une équipe très robuste, très physique, et ils mènent au score. Voilà, ils prennent l'avantage, je sais plus, je crois que c'est 60e, 70e, quelque chose comme ça.
70e, oui, ils ouvrent.
C'est eux qui ouvrent
le score. Contre le cours du jeu, ouais.
Contre le cours du jeu, exactement. Donc ça peut être vraiment tout d'un coup un match extrêmement compliqué. On n'a pas réussi à marquer avant la 70e et tout, donc on peut se dire, peut-être que c'est fini. Et justement, je trouve que. Contrairement à ce qu'ils auraient pu faire dans le passé, ils arrivent à aller au bout du match.
Ils n'ont pas lâché, ils n'ont rien lâché, et puis ils ont su,
justement, à la 96e, ils prennent l'avantage.
C'est devenu un petit peu plus dur pour les Tchèques après, physiquement. Ouais.
Je trouve que c'est bon à noter que le Portugal peut avoir ce petit supplément d'âme pour aller chercher la victoire à la fin.
Et je pense juste qu'ils se tirent une balle dans le pied. Enfin, beaucoup de respect encore une fois, mais qui se tire une balle dans le pied en mettant Cristiano Ronaldo titulaire à chaque fois, je trouve.
Dernier petit mot, Julien, on va conclure après.
Oui, le Portugal, en réalité, ils ont vécu en encaissant ce but avant de revenir au score, etc. Ce que n'importe quelle autre grosse nation aurait pu faire. On était sur des 0-0 où il y a des occasions souvent pour la plus grosse équipe, quelques-unes, et puis la petite équipe arrive à avoir une ou deux occasions, et quand ça en met une, effectivement, l'autre équipe est tout de suite en difficulté parce que un euro, on met tellement d'énergie, tellement d'envie, même les petites équipes, que c'est jamais évident de changer la donne. Moi, je suis pas inquiet. Le Portugal, pour moi, c'est un des favoris. Clairement, ils ont un effectif énorme. Je suis pas fan du coach, mais bon, en réalité, il a eu des parcours de qualification à chaque fois juste parfaits, que ce soit avec la Belgique ou le Portugal actuellement. C'est une belle équipe. Moi, je voulais revenir un peu sur la Géorgie rapidement. Ça aurait pu être la belle surprise avec l'occasion manquée à la dernière minute, les matchs qu'ils ont fait, même si ils n'ont pas toujours été aboutis, c'était cohérent et ça montre une belle image pour une première grosse compétition comme ça. Et vraiment, il faut souligner le travail de Sagnol comme il l'a dit précédemment.
Très bien, merci en tout cas. Rendez-vous donc la semaine prochaine, cette émission en podcast, comme toutes les 92 autres émissions auparavant. Merci à Jason et Léonard pour la mise en place de cette émission. Tiens, on termine avec Ramener la Coupe à la maison, ça a été la chanson de 2018. On espère qu'on fera pareil. Vidje Dream, belle soirée à toutes et à tous. Rendez-vous la semaine prochaine, salut.
Casser les manches comme Samuel M.T.T. 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 Et s'il y a trop, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Et s'il y a trop, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Ramenez la coupe à la maison. À droite, Kylian Mbappé. Accélération, virgule, petit pont. Frappe, Kylian Mbappé. J'sais plus si j'suis gaucher ou droitier. Je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé. J'sais plus si j'suis gaucher ou droitier. Je tire des deux pieds, Ousmane Dembélé. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après c'est le moment. Allez les bleus, allez. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après on est champion. Allez les bleus, allez. Hey, on est ensemble. Antoine Griezmann, penalty, on est ensemble. Hey, on est ensemble. Nabil Fé-
fait.